Vous écoutez
RMC. RMC, Rotten Régal.
Et la casquette Nissan, elle est pour moi. Elle est pour moi, cette casquette Nissan.
Le multiplex.
Et on va accueillir pour ce multiplex Jean Baumel qui est à Lille avant le choc face au PSG. Salut Djibo.
Salut François, salut Jérôme, salut Captain. Salut à tous.
Djibo. On ira aussi à Monaco avec Clément Brossard qui est déjà là. Salut Clément.
Salut François, salut Captain, salut Jérôme.
Et puis salut Clément. On va aussi aller à Marseille avec Flo Germain. Salut Flo.
Salut à tous les trois, salut à tous.
Dans un instant, on trouvera Edouard Jay, qui a un petit peu de retard, mais qui sera là pour nous parler du match entre Lens et Lyon. Edouard, on le retrouvera dans un instant. Mais on va tout de suite partir, si vous voulez bien, messieurs, à Lille, parce que c'est quand même le choc. On a parlé du PSG. PSG qui affronte Lille. Je vous rappelle juste avant cette information importante donnée par le Paris Saint-Germain et relayée par Loïc Tanzi. Donc, suite au dernier test PCR, c'est Marco Verratti est confirmé positif. Il va donc respecter l'isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. C'est ce que dit le PSG dans un tweet aujourd'hui. Verratti, forfait, on peut vous le dire désormais, contre Lille, bien sûr, et contre le Bayern. Voilà, c'est la grosse info de la soirée. Vous pouvez réagir, bien sûr, sur le hashtag RMC Live et retrouver toutes les infos sur le site rmcsport.fr. Djibo, donc, on a entendu dire que le PSG jouait gros ce week-end avant le match face au Bayern, mais le LOSC joue aussi très très gros demain contre le PSG.
Ah ben c'est certain, parce qu'en fait Lille n'est pas bien sur les derniers matchs, hein, deux défaites, une en Coupe de France, c'était contre le Paris Saint-Germain 3-0, même si dans le jeu c'était pas catastrophique, mais en tout cas ils ont pris une claque. Et puis surtout la défaite contre Nîmes, hein, qui a voilà un joker complètement grillé à domicile face à l'avant-dernier, hein, un peu à l'image de ce qu'avait fait le PSG face à Nantes une semaine plus tôt en perdant au Parc des Princes. Donc voilà, et Lille, bah on les sent un peu fatigués. Il y a eu cette trêve internationale avec 15 joueurs qui sont partis. Alors dans les 15, il y a quand même des jeunes, hein, Pizzuto que vous connaissez moins, voilà, ils sont pas tous partis, mais on va voir l'état de forme des uns et des autres. Plutôt intéressant de voir Burak Yılmaz en pleine bourre avec la sélection turque. Après c'est de voir Renato Sanchez, José Fonte qui a pas mal joué avec le Portugal, Zeki Seli qui lui est forfait puisque il a le Covid, il est resté d'ailleurs en Turquie. Donc on sait que à droite ça va être compliqué puisque notamment Jérémy Pied, un autre spécialiste du poste, est forfait. Donc ça sera Thiago Diallo.
C'est l'ami de Captain qui sera titulaire.
Donc. Ouais, et Jérôme aussi, je crois.
Ouais. Bon, ouais, un peu de tout le monde.
Oh, bah. Et on se souvient. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas mis avec le ballon.
Ouais, ça c'est sûr.
Et souvenez-vous, le match de Coupe de France, où il a été titularisé en défense centrale, ça avait été très compliqué. Très bon, ouais. Et voilà, donc voilà, le Paris Saint-Germain va peut-être accentuer côté droit de la défense lilloise et voir les états de forme des uns et des autres. Hein. Il y a de grosses interrogations, notamment sur Bamba. Va-t-il retrouver, a-t-il pu souffler pendant la trêve internationale? Iconé, bon, qui a joué avec les espoirs devant Jonathan David, bon, qui avait fait illusion, qui avait marqué un doublé en fin de match contre Marseille, mais derrière c'était pas très concluant. Donc il y a tellement d'interrogations, cette sensation de fatigue, d'être un petit peu à bout de souffle. Et quand on voit le match du Paris Saint-Germain face à Lyon, voilà, on a plutôt la tendance à penser que demain, si Lille se fait taper, prend une grosse claque, l'enchaînement va être compliqué parce qu'ils vont encore jouer Lyon, ils vont encore jouer Lens. Il y a des échéances qui ne sont pas forcément évidentes pour l'équipe de Christophe Galtier, qui lui, peut-être, a la solution pour remobiliser ses troupes.
Ouais, bon, la solution, elle l'avait pas il y a 15 jours encore, hein. Donc j'espère qu'il a aussi lui retrouvé un petit peu de fraîcheur et de dynamisme dans sa façon de parler à ses joueurs, de les motiver et puis surtout de faire les bons choix parce que c'était pas le cas sur les derniers matchs. La dynamique elle est pas bonne à Lille. Oui, l'équipe mis à part le problème à droite, l'équipe elle tient la route, mais c'est surtout collectivement qu'ils ont perdu de leur superbe. Et puis tu l'as dit, offensivement, les dynamiteurs de jeu que sont en général Bamba, Arroyo, Iconé, bah ça l'est moins. Je peux mettre Ouéa, mais bon, moi je le trouve vraiment en dessous de ces joueurs.
Yazice, tu peux le mettre aussi.
Yazice aussi. Tous ces joueurs-là ont été décevants sur les derniers matchs, et comme par hasard, ça se ressent dans les performances de Lille. Et c'est pas un coup de baguette magique qui va montrer que ça y est, Lille a retrouvé son dynamisme et que ces joueurs-là vont retrouver leur niveau.
Jérôme, comment tu expliques que par exemple Yılmaz, si timide lors des derniers matchs, ait été irrésistible avec la Turquie? Ça veut dire qu'il est en forme.
Ouais, ça veut dire timide, t'es méchant. t'es méchant parce qu'il revenait de blessure. Djibo, je parle sous le contrôle de Djibo.
Contre Paris, en coupe, il avait été bon, mais il n'a pas marqué, mais il avait trouvé la barre.
Mais il sortait d'une longue blessure quand même.
Ouais, quand même.
Donc il lui fallait un petit peu de temps de jeu.
Il a fait des gros matchs avec la Turquie. Hein.
Ouais, parce que là, il a le match contre Paris en Coupe de France où il n'avait pas été mal. Hein, c'était son match de reprise, du moins.
Exactement.
C'était son premier match titulaire depuis sa blessure. Lui a permis en effet de pouvoir. Bon, contre Nîmes, ça n'a pas été le cas, mais de pouvoir être brillant avec la sélection. Mais Yilmaz, moi, j'ai pas trop de problèmes sur Yilmaz. Yilmaz, bien sûr, sur le front de l'attaque, il va se bouger. Mais comment tu lui amènes les ballons? Quelle force collectivement? Ce qui faisait la qualité première de Lille sur les premiers mois de compétition. Et c'est pour ça qu'ils ont été souvent leaders. Tout ça, ça a un petit peu disparu, quoi. Et ça a disparu avec les mauvais choix de Christophe Galtier.
Alors, on va parler de Lyon. Edouard est avec nous. Salut, Edouard. Lyon qui se déplace
bonjour.
À Lens. Salut, salut. Lyon battu par le PSG 4-2. C'était juste avant la trêve.
Ouais.
Edouard, est-ce que cette trêve, justement, dont on parlait pour Lille, où il y a pas mal de joueurs qui sont partis en sélection, est-ce que cette trêve pour Lyon, du coup, a été profitable?
Bah, c'est l'impression qui se dégage, en fait, que cette trêve internationale a été un petit peu un havre de régénération. On a vu beaucoup de sourires hier à l'entraînement. Une seule inquiétude, hein, c'est les cas de Covid qui sont du côté des filles. On sait que les filles et les garçons sont sur le même site. Donc, il a fallu désinfecter, par exemple, la cuisine et puis la cantine pour essayer d'éviter la propagation. Donc, ça, c'est la seule, mais quand même, qui est un peu importante d'épée de Damoclès. Mais pour le reste, le groupe n'a pas été trop éparpillé pour une fois, hein, par la trêve internationale, parce que ce soit pour Kaltoko Ekambi, Tino Kadewere, Sinali Diomandé, Maxwell. Donc les Africains ne sont pas partis avec leur sélection, les Brésiliens non plus, Bruno Guimarães et Lucas Paqueta. Du coup, ben il y a ceux qui ont joué avec leur sélection. Je parle de Depay, de Nanaire ou encore de Anthony Lopez. Ben là, ils ont continué un petit peu à surfer sur la bonne saison qu'ils ont faite. On a vu Slimani aussi avec l'Algérie jouer et marquer, notamment en Zambie. Donc là, ça fait plutôt du bien. Et puis pour le reste, eh ben il y a eu un travail d'oxygénation, d'harmonisation de la préparation physique et puis aussi tactique avec tous les milieux qui étaient là. Du coup, Rudy Garcia nous disait en conférence de presse hier, ça nous a permis d'emmagasiner de l'énergie à tous les étages pour cette fin de saison et ce sprint qui s'annonce avec les 8 matchs de championnat, puis bien évidemment la Coupe de France. Voilà, on a l'impression quand même qu'il y a un petit élan qui s'est créé durant cette trêve internationale, en tout cas dans cette préparation de 15 jours.
Bah, on est au bon moment, la trêve internationale pour les Lyonnais.
Alors après, c'est toujours pareil. Il n'y a pas... j'aime pas ça. Quand tu prends une claque comme ils ont pris contre le Paris Saint-Germain, c'est déjà bien et c'est l'avantage du foot, c'est de pouvoir jouer soit tous les 3 jours, soit toutes les semaines et te remettre en question. T'as 4-5 jours de déception, 2-3 jours de déception et après tu repars dans l'autre match. Là, le truc, c'est que même s'il y a eu beaucoup de joueurs qui sont partis avec leur sélection, ceux qui sont restés, et il y en a, Edouard le disait.
Il y en a beaucoup.
Beaucoup qui sont restés. De pas avoir de la compète, de rester sur cet échec, cette claque reçue.
Ah ouais, toi, tu trouves que c'est pas que c'est, profitable.
Encore une fois, j'ai pas toujours raison. C'est mon expérience de joueur. Ouais. Quand tu prenais une claque comme ils ont pris, je préférais jouer 3 jours après pour essayer de repartir sur autre chose et surtout d'inverser la tendance.
D'accord. Et là, tu... Parce que pendant 15 jours, quand tu cogites et puis que tu regardes, tu sais que ta dernière performance, t'as pris plus qu'une gifle, t'as pris une raclée. C'est difficile quand même de se refaire. Alors, même s'il y a eu une bonne période de réoxygénation, là, à mon avis, on va voir dès les premières minutes. Bon, le déplacement, tu l'as dit, c'est compliqué par rapport à Lens parce qu'ils sont bons. C'est pas compliqué par rapport à Lens parce qu'ils en gagnent pas beaucoup chez eux.
Ouais.
Mais enfin, il va falloir un Lyon un peu plus compétitif que celui que l'on a vu ces dernières semaines.
Lens-Lyon, effectivement, ça sera l'un des 3 matchs proposés demain sur RMC. Allez, il est 19h10 sur RMC. C'est le multiplex Ligue 1 de Rotten Régal. On va faire un tour des stades tout de suite. Avec 4 infos, une info chacun, messieurs. On va commencer par Marseille. Marseille, ça sera Marseille-Dijon dimanche, Flo. Il y a pas mal d'absents côté marseillais.
Oui, Nagatomo toujours blessé à la cuisse. Amavi également à la cuisse. C'est vraiment une saison galère pour le latéral gauche de l'OM qui s'est testé pendant la trêve. Il a toujours des douleurs. Rongier est également maudit, le tendon d'Achille, des douleurs qui se réveillent. Donc Rongier forfait et Tchaletassar qui est suspendu, on le rappelle. Camara pourrait descendre en défense centrale s'il y a 3 axios. Il pourrait être aux côtés de Balerdi et d'Alvaro Gonzalez.
Ok, Clément à Monaco, il faudra faire sans Tchouaméni contre Metz demain.
Oui, alors il était suspendu de toute façon pour ce match face à Metz, mais ce qui inquiétait, c'est qu'il a reçu un mauvais coup sur la cheville droite contre l'Islande.
Ah oui, il a pris le bol semelle. Ah oui,
il a bien tordu.
Et d'ailleurs, on craignait un petit peu son absence. Alors, il a passé des examens hier. Je viens d'avoir des nouvelles juste à l'instant. Alors là, c'est plutôt rassurant. Il devrait pouvoir retrouver rapidement les terrains. Donc, voilà. Mais son absence, en tout cas, va peser demain. Il forme avec Fofana une paire de milieux récupérateurs indéboulonnables, chers aux yeux de Nico Kovac. Alors, c'est le jeune Elliot Matadzo qui pourrait le remplacer. Et puis, deux autres absents importants. Sofiane Diop opéré d'un doigt dans la semaine. Et Ruben Aguilar positif au Covid. Willem Jeubels est lui en phase de reprise après sa blessure au pied.
On retrouve Djibo pour parler du LOSC avec Christophe Galtier qui a répondu à la rumeur lyonnaise aujourd'hui.
Ouais, une rumeur qu'il envoie à Lyon la saison prochaine, c'est pas nouveau, hein. Ça a un petit peu, c'est revenu plusieurs fois dans la saison. Il a voulu être clair, il a dit non, je n'ai eu aucun contact avec Jean-Michel Aulas, que j'apprécie beaucoup. On sait qu'ils s'apprécient, ils ont travaillé ensemble d'ailleurs à l'époque, hein, quand il était l'adjoint d'Alain Perrin, ni avec Juninho. Donc, et même mon entourage n'a pas discuté avec le président et le directeur sportif lyonnais. Il a dit d'abord, je dois discuter en priorité avec Olivier Létang pour voir comment ça se passe. Et je vous rappelle qu'il lui reste un autre contrat.
Bah tiens, justement, on va à Lyon retrouver Edouard, puisque Rudy Garcia aussi était en conférence de presse. Il a aussi été question de son avenir aujourd'hui.
Bah oui, pour la 8e fois depuis le début de l'année, hein, j'ai le décompte. Donc c'est une 8e réponse Rudy Garcia. Il est calme, posé, chirurgical, avec un rappel historique, parce que dès qu'il a signé, il a toujours été question que son avenir.
Ah bah voilà, son avenir dès qu'il a signé.
Ça sent, alors là ça sent pas bon pour Rudy Garcia.
Ça sent pas bon. C'est Edouard qui va le remplacer.
On a bien compris qu'il avait répondu la même chose les 8 premières fois. Merci beaucoup à
la
tous.
La technique s'y fait sur Edouard. Alors là,
vous restez avec nous évidemment, parce qu'on vient tout de suite pour d'autres infos sur cette 31e journée de Ligue 1. On ira à Monaco et on ira à Marseille pour parler de Florian Thauvin.
Bonne... Déjà on a su que Xavi n'était pas revenu encore.
Ouais.
Donc Xavi pas de chavirongier.
Bien sûr, évidemment. On vient tout de suite dans Rotten Régal. À tout de suite.
RMC. 18h-20h. Rotten Régal. François Pinet.
Jérôme Rotten.
19h14, toujours sur RMC, bien sûr, avec Rotten Régal, François Pinet, Jean-Michel Larquet. On continue notre multiplex, notre tour des stades.
Exactement. Je vous rappelle que dans 15 minutes, on vous donnera des infos sur le Bayern à 5 jours du match contre le Paris Saint-Germain, avec Paulo Breitner et le Bayern qui a un gros choc à jouer contre Leipzig. Ah oui. On ira aussi en Espagne retrouver Fred Hermel, puisque Zizou a parlé de Kiki. On verra ce qu'il a dit, notre Zizou.
Il a remis une couche aussi.
Il en a parlé aujourd'hui, au Real Madrid. On est avec Jean Baumel, Edouard Jay, Flo Germain, Clément Brossard pour vous présenter la 31e journée de Ligue 1. Je vous rappelle aussi l'information de la soirée, elle est importante. Marco Verratti forfait pour affronter le Bayern Munich suite à un test positif au Covid. Il avait effectivement déjà eu le Covid en janvier.
Ouais, c'est ça, avec
Il
Diallo.
A visiblement été à nouveau testé positif aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'annonce le Paris Saint-Germain. Son forfait est acté pour le Bayern. On rappelle que Paredes est suspendu. Hein, et que pour Danilo, c'est ce que nous disait Loïc Tanzi tout à l'heure, il y a encore des doutes sur sa présence au milieu de terrain. Donc il reste plus grand monde au milieu de terrain. Il y aura Idriss Agueil et puis, il faudra trouver une solution pour le Paris Saint-Germain. Allez, on va tout de suite à Monaco avec toi, Clément. Monaco qui reçoit Metz, on le disait, demain à 13h. L'occasion de revenir provisoirement à un point du PSG qui joue ensuite contre Lille. Nico Kovac a parlé hier de week-end important. C'est vraiment un match à pas perdre pour Monaco, on est d'accord, dans la course au titre.
Tout à fait. Ouais. On a l'impression finalement que ce week-end, ou du moins la journée de demain, a été construite pour Monaco. Parce que si le club de la Principauté s'impose à 13h, il pourra mettre les chaussons, déplier le canapé, prendre un verre de jus de fruits, regarder tranquillement les autres équipes du top 5 s'entretuer. Alors on le dit depuis des mois, le discours à Monaco reste le même. L'objectif, c'est de creuser l'écart avec la 5e place. Un moyen aussi certainement d'alléger la pression sur les épaules des joueurs relativement jeunes. Parce que l'AS Monaco est le 3e plus jeune effectif de Ligue 1, faut pas l'oublier. Et l'absence de pression, Youssouf Fofana, 22 ans, en parlait justement hier en conférence de presse, écoutez-la.
Bah, je vous repose la question, vous préférez être poisson ou requin? Je préfère chasser et on chassera quand il n'y aura plus de prédateurs derrière nous. Après, personnellement, c'est la première fois que je me retrouve dans cette position. Du coup, il n'y a aucune pression que je sois à la place où je suis maintenant ou un peu plus haut dans le futur. Il n'y aura jamais aucune pression, c'est que du bonus pour nous.
Bon, je vous rappelle que Monaco a 11 points d'avance sur Lens 5e, et il ne faut pas s'attendre à un autre discours dans le mois qui arrive tant que la 4e place n'est pas validée mathématiquement. Nico Kovac nous jouera toujours la même cassette. Il y a des désirs et la réalité. Parler de Ligue des Champions n'a pas de sens, avait-il avancé avant le match face à Lille. Sauf que si Monaco est 3e lundi matin, il deviendra compliqué de ne pas en parler publiquement. Attention tout de même à ne pas se voir trop grand comme favori contre le FC Metz, car défaut pas, Monaco en a fait, à l'image des défaites à Brest en début de saison ou à Strasbourg il y a un mois, et puis après une trêve internationale. C'est toujours compliqué de s'y remettre.
Un vrai bon coup à jouer là pour Monaco ce week-end. Hein.
Oui, oui, mais le, outre ce match, il y a le calendrier, j'en parlais tout à l'heure, qui est intéressant. Hein. On en parlait hier dans l'after avec, avec Clément aussi. Le calendrier de Monaco, mis à part le match contre Lyon, qui sera un match décisif, bien sûr, début mai.
Et c'est où? C'est à Monaco?
C'est à Monaco, oui.
Ouais. Ah oui, mais c'était justement, c'est plutôt un bon match.
Oui, oui, non, mais.
Oui,
mais non, mis à part, je
dans,
te parle par rapport
dans
à
une
la
confrontation. Oui, mais dans une confrontation directe, tu reçois un adversaire direct pour la deuxième ou la troisième place. Je trouve que c'est encore mieux que le calendrier est mieux que ce.
Ça sera début mai, 35e
jour. Je suis d'accord avec toi. Et puis de toute façon, le fait d'être dans ce classement-là, on sait très bien. Et là, j'apprends rien quand je dis ça. Tu rentres dans une période à Monaco, ça peut être toujours un peu compliqué. Il fait beau. Non, mais c'est vrai que le climat joue beaucoup, le contexte monégasque.
Tu joues moins bien quand il
y a le Grand Prix de Monaco.
Ouais, il y a plein de choses qui rentrent.
Heureusement qu'il y a le couvre-feu, hein, qui a été repoussé de 19h à 20h d'ailleurs à Monaco.
Ouais, donc, mais t'as le tournoi de tennis, t'as plein de choses en fait. Non, mais tu rigoles.
Non, je rigole parce
mais
que
c'est la vérité,
c'est
parce que quand
t'as quand même quelque chose à aller chercher, tu vas être juste perturbé par le soleil.
C'est ce que je te dis, vu que t'as quelque chose à aller chercher, ça te perturbe pas parce que là, et c'est la grande force aujourd'hui de Niko Kovacs et de son staff et même des dirigeants, c'est d'avoir permis à ce groupe de pouvoir espérer là dans cette période début avril jusqu'à la fin de saison. Et tant mieux parce que c'est un groupe qui est jeune, Aurélien Tchouaméni et non c'était Fofana
en conférence de presse.
Nous le rappelait, oui c'est un groupe qui est jeune, mais pour autant la pression, tu vas la sentir de plus en plus. Et le fait d'être comme ça, focalisé par cet objectif-là, ils vont pas pouvoir s'endormir. Et ils savent, en plus, la plupart, c'est un premier titre à aller chercher, ou du moins, je parle de titre de champion, mais là, la place en Ligue des Champions. Et bien sûr que dans le vestiaire, quand t'es à cette journée de la fin, à cette position-là, que t'es le chasseur, au bout d'un moment, tu vas peut-être devenir le chassé parce que, en effet, les équipes, elles se rendent compte et si tu fais pas de faux pas, tu vas leur passer devant, à commencer par ce week-end. Donc, ça sera une autre approche, mais la pression commencera à se faire sentir. Et là, il va falloir être costaud, éviter les blessures, mais tout ça, je pense que Kovac le gère très bien cette année. Et donc, c'est pour ça que moi je te dis, je vois bien Monaco finir très, très fort.
Monaco sur le podium, ouais. Ton pari. On va aller à Marseille. Alors, Marseille, bon, le podium est loin, Flo, mais Marseille reçoit Dijon. Donc, l'occasion quand même de rester dans cette course à la Ligue Europa. On va parler plus précisément, Flo, avec toi, de la situation de Florian Thauvin, qui est toujours au centre des débats de l'Olympique de Marseille. On rappelle qu'il est en fin de contrat en juin prochain.
Est-ce que ce sera le feuilleton du printemps? Très probablement, parce que c'est vrai qu'il y a encore quelques semaines, la situation de Thauvin, elle était quasiment actée. C'était pas officiel, mais on se disait bon, Thauvin, il va partir, il a envie de voir ailleurs. Il y a aussi l'attrait quand on est en fin de contrat, on le rappelle, bon, d'une prime à la signature, hein, faut pas le cacher. Milan, Séville, c'était des clubs qui s'intéressaient et qui s'intéressent toujours aux joueurs, même si le salaire reste conséquent pour Florian Thauvin. Hein, il touche un peu plus de 420 000 euros bruts par mois à l'OM, donc c'est pas rien. Il avait même refusé en décembre une proposition de l'OM avec une légère augmentation de salaire. Mais il y a un réel effet Sampaoli, pas à chaque conf mais presque, il en parle. Et écoutez, aujourd'hui il a remis le couvert sur Florian Thauvin. Il adore Thauvin et il aimerait bien le garder.
Thauvin est l'un des joueurs les plus importants de l'équipe. Quand je le vois jouer et s'entraîner, j'aimerais le garder. Mais là aussi, mon point de vue est exclusivement sportif. Il y a d'autres paramètres qui déterminent la prolongation ou non d'un joueur, qui dépassent les simples souhaits du coach.
Voilà, donc ça dépendra évidemment des propositions de Cora Thauvin et surtout de la capacité de l'OM à s'aligner. Donc voilà, alors je ne sais pas si vous pouvez être de bons conseils vis-à-vis de Thauvin s'il nous écoute, mais on sent qu'il hésite un petit peu plus qu'il y a quelques semaines. Ouais. Il y a encore, je disais un mois et demi, c'était assez clair dans sa tête, il avait envie de tourner la page. C'est même ce que lui conseille encore pas mal de ses proches, sauf qu'il est quand même bien à Marseille, il apprécie ses louanges, cette confiance surtout de Sampaoli, et les cartes sont rebattues, c'est lui-même qui l'avait confié il y a 2-3 semaines.
Le conseil alors, Jérôme?
Bah, le conseil, moi Flo, je le connais très bien. je pense que au bout d'un moment, psychologiquement, mentalement, tout ce qu'il a pu encaisser ces derniers mois, parce que il avait beaucoup de reproches à faire aux dirigeants par rapport à cette fameuse prolongation de contrat qui n'arrivait pas. Il y a eu cette blessure et comment ils ont géré cette blessure aussi, un temps d'absence qui était la première grosse blessure de sa carrière. Il avait quand même derrière lui le titre de champion du monde, donc. Ils auraient pu la gérer différemment, les dirigeants. Alors oui, ça a changé à Marseille. Oui, il y a un autre président aujourd'hui qui découvre ce poste-là. Il y a un nouvel entraîneur qui arrive avec des ambitions. Ce qui est bien, c'est que quand t'es un joueur qui joue sur l'émotion aussi, qui a un affectif, ce qui est le cas de Flo Thauvin, quand ton entraîneur parle comme il a parlé aujourd'hui en conférence de presse, c'est sûr que ça te rassure et ça peut te permettre de repartir sur une autre aventure. Mais pour moi, le mal était trop profond pour que d'un seul coup, juste l'arrivée de Sampaoli masque tout ça et que tu repartes à l'âge qu'il a sur un nouveau contrat avec une ambition de Marseille qui sera encore élevée parce que ce club-là est comme ça. Tu peux pas te permettre, tu peux pas vendre aux supporters un Marseille qui est moins ambitieux et qui veut finir cinquième du championnat. C'est pas possible. Et donc pour tout ça, je pense que son avenir est ailleurs.
Ah oui, d'accord.
Mais
moi j'ai l'impression que après je me trompe peut-être que Florian Thauvin fonctionne beaucoup à l'affectif.
Non, mais c'est ce que je viens de te dire.
Ouais, oui, mais justement le fait que Sampaoli soit là, ça peut vraiment tout faire changer.
Dans ce côté affectif, justement, il a été assez marqué par certains épisodes ces derniers temps avec l'OM. Alors c'était pas les mêmes personnes à la tête du club,
plus les mêmes, quand même.
Ça l'a froissé quand même. Les supporters ont parfois été durs. La jeune génération, même si lui il est papa maintenant, etc. Il prend du recul, mais on sait ce qui s'écrit sur les réseaux et autres, et ça l'a un peu perturbé, donc ce sera dur de peut-être le rattraper, mais
il faut qu'il ait des propositions intéressantes aussi ailleurs.
Ça, il est en fin de contrat,
mais les cartes sont rebattues par rapport à quelques temps.
À mon avis, il aura des propositions. Il aura des propositions parce que sa fin de saison, même si je pense qu'il a pas oublié. Je crois qu'il est. Je dis pas qu'il est laminé, mais il est usé par tout ce qu'il a pu vivre individuellement et collectivement à l'Olympique de Marseille.
Oui, puis use un club comme ça.
Oui, c'est ça. Il est usé. Il est usé par ça. Et je pense que c'est le moment pour lui. Honnêtement, je suis entièrement d'accord avec le raisonnement de Jérôme. Il a besoin d'un nouveau challenge.
Ok. Alors, à 19h24, dans Roten Régal, on va faire un tour des stades. Un nouveau tour des stades avec trois infos. Une info chacun. Tiens, puisque tu avais la parole, Flo, on va continuer avec toi parce qu'on a parlé de Dimitri Payet également en conférence de presse aujourd'hui.
Oui, exactement. Et c'est vrai qu'il a fait passer un message malgré tout. Enfin, faire passer un message, je pense pas. Il a tout simplement été sincère, Jorge Sampaoli, quand il a été questionné sur Payet, il dit je connais ses capacités, mais il est loin de ce que l'on attend et de son niveau. Son irrégularité actuelle fait qu'on ne voit pas le meilleur Payet. Il doit retrouver une force mentale et physique pour redevenir un joueur décisif. Ça a le mérite d'être clair, et au moins Payet sait à quoi s'attendre, parce que lui aussi fait partie de ces joueurs qui sont évalués. Il y a des évaluations par Sampaoli en ce moment pour savoir qui il va garder saison prochaine.
Il a pris l'accent. Marseille-Dijon, c'est à 21h dimanche. Djibo, une info sur Lens quand même, parce que Lens va jouer les arbitres ce week-end.
Va jouer les arbitres en affrontant Lyon, et va aussi jouer sa carte Coupe d'Europe puisqu'ils sont quand même 5e. Alors Medina est suspendu. On rappelle donc que Lens va jouer donc demain Lyon, et par la suite le PSG, Lille et Monaco, et que cette saison Lens a battu le PSG, a battu Monaco, a perdu de justesse à Lyon 3-2, et qui a battu Marseille, que je considère comme un gros, une fois, et un nul contre l'OM. Donc ils savent faire, ils ont pris qu'une seule claque, c'était contre Lille.
C'est gentil de considérer Marseille comme un gros, Flo.
Surtout qu'il y avait Xavi Iniesta à l'époque.
Par le nom et par le prestige, Marseille restera un gros.
Respect Djibo, il a totalement raison, s'il te plaît.
Pas pour cette saison, mais Marseille est un grand club.
C'est la façon de dire.
Ah oui, parce que gros, je croyais que tu parlais parce que Payet avait joué.
Bon, on va aller voir Clément, parce que
il a affûté ces derniers temps, faut qu'on
dise. Oui, c'est vrai.
Clément Brossard,
comme quoi, il avait bien des kilos en trop.
On nous aurait menti, mais c'est pas vrai.
Clément Brossard, notre correspondant sur la Côte d'Azur, Nice joue à Nantes dimanche, et Youssef Attal ne sera pas du voyage.
Et non, sa cuisse l'a déjà éloigné des terrains 15 matchs cette saison avec deux rechutes. Et c'est à l'adducteur qu'il s'était encore blessé début mars. Bien cette fois, rechute à l'adducteur. 4 semaines d'arrêt, il en a déjà fait 2. Adrien Urcea a expliqué en conférence de presse que le staff lui a fait confiance quand il leur a donné ses sensations. Ça les a induits en erreur. Il voyait qu'on était dans une mauvaise situation et a voulu reprendre trop vite. Ça partait d'une bonne intention, a ajouté le coach du gym. C'est une saison noire pour le latéral droit algérien. À noter qu'en plus de Dante et Reine Adélaïde, et donc Attal, Boudaoui toujours blessé et Schneiderlin suspendu, manquant le match de Nantes.
Merci beaucoup Clément, merci et bon match ce week-end Monaco-Metz à partir de 13h.
L'ogre Messin, François,
dès demain. Ben, l'ogre Messin qui voilà, effectivement déjà, je pense que tu trembles là, tu trembles, tu vas passer une mauvaise
soirée. Il a mis son caleçon de Metz hein, donc ça annonce la couleur.
Le caleçon Graouli.
Oui, ouais,
exactement.
Bien sûr.
Bon, le Graouli.
Aussi,
le Graouli,
et on embrasse ta sœur qui vit là-bas.
Et oui, exactement. Oui. Tu t'en souviens. Oui, sûr, Anne-Marie. Embrasse, bien sûr.
Salut Anne-Marie.
Et ses enfants et son mari qui fait de la boxe. Alors fais attention.
Notre famille.
Écoute, merci aussi, Djibo. Merci, Djibo.
On font pas le poids avec
Bonne soirée à tous.
À très bientôt.
Salut les gars.
PSG demain 17h, bien sûr. Et puis Lens face à Lyon 21h. On remercie Edouard également qui est parti un peu plus tôt. Et on remercie Flo.
Salut Flo. Bon week-end.
Marseille. Bon match. Dijon, 21h, la course au titre, bien sûr.
C'est un gros gros match.
À suivre sur RMC. Demain, bien sûr, tout de suite, on va prendre des nouvelles du Bayern, l'adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions avec Paulo Breitner.
Tremble le Bayern, tremble.
On a la chance d'avoir Fred Hermel en chair et en os sur notre plateau. A tout de suite.
RMC, Roten Régal. François Pinet,
Jérôme Rotten.
19h30, allez, dans la dernière demi-heure de Rotten Régal sur RMC, bien sûr, avec François Pinet, Jean-Michel Larquet. Ben oui, ça passe vite, François, ça passe super vite. Oh, maintenant,
c'est ça qui est agréable.
C'est le multiplex européen, il y a des gros matchs.
Le match de l'équipe de France.
Exactement. Alors, dans un instant, il y a le quiz aussi, hein, n'oubliez pas, hein, parce que
c'est souvent, pour Jean-Michel.
Bon, ça finit souvent mal, mais on va essayer d'être vraiment dans les règles. Cette fois, je te le promets,
Catherine.
Tu vas essayer d'être dans les règles, ça veut dire que les fois d'avant, tu n'y es pas.
Non, mais les fois d'avant, c'est Jean-Louis Tour, excuse-moi. Je ne suis pas
Jean-Louis Tour. Tu y as été.
Je respecte les règles. Donc 32-16 pour vous inscrire, pour aider Captain à gagner ou faire équipe avec Jérôme. C'est dans un instant. Tout de suite, le multiplex européen.
RMC, Rotten Régal. Le multiplex européen.
Et on accueille Paulo Breitner qui est avec nous. Salut Paulo.
Bonsoir mon cher François, bonsoir tout le monde.
Salut Paulo.
Et oui, Paulo qui va nous parler du Bayern dans un instant. On est avec également Fred Hermel qui est là.
Ah.
Qui est là, il n'est pas loin en Espagne, il est bien présent en France.
Hola chicos, ça va physiquement, tu trouves pas que la physique de télé, une voix de radio.
Bravo pour ton livre aussi, j'ai vu là, c'est ça la France qui marche, qui cartonne.
Ah ouais, t'as déjà lu, évidemment.
Ah bien sûr, il me l'a envoyé, donc très beau livre.
Il est facile à lire parce que c'est écrit gros quand même.
Je le conseille vraiment.
C'est gentil, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, il y a une petite montée des ventes énorme là,
c'est fou.
Ça commence à prendre.
On n'est pas là pour faire ta publicité.
Non, mais attends, mais Jérôme, en tant qu'ami, me demande comment va ma vie. Je réponds.
Moi, je peux pas me donner mon avis sur
ni
la biographie de Zidane
Je t'ai envoyé les deux, Jean-Michel.
Ah, oui, je les ai jamais reçus.
Non, mais tu plaisantes. Tu les as pas reçus.
Ah, là, il faut faire une demande.
C'est bien l'adresse où je t'ai ta maison.
Donne l'adresse.
Ah bah non, je vais pas donner.
Réclamation à la poste.
On va en parler après hors antenne, mon cher.
Encore le livre sur Zizou, bon, on s'en fout, mais le dernier, il est bien.
On parlera de Zizou dans un instant avec toi, Fred, parce qu'évidemment, il a parlé de Kylian Mbappé aujourd'hui en conférence de presse. Mais d'abord, le match du Bayern contre Leipzig, c'est demain. Polo, et ça va servir de répétition générale pour le Bayern avant d'affronter le PSG mercredi prochain ?
J'en suis pas persuadé parce qu'il va manquer trois joueurs en fait demain. Il n'en manquera qu'un seul contre Paris. C'est-à-dire que Boateng et Davis sont suspendus. Lewandowski sera évidemment là. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'a dit Hansi Flick en conf de presse. C'est-à-dire qu'on arrive au mois d'avril et que c'est là que tout se décide. Mais il a aussi noté que certains de ses joueurs multipliaient les rencontres, multipliaient les compétitions et qu'il avait peur un petit peu que le Bayern Munich, qui a un banc relativement faible peut-être par rapport à d'autres cylindres européennes, fatigue un petit peu. Par exemple, demain, on annonce Gnabry en pointe et non pas Choupo-Moting.
Mais ça veut pas dire que c'est une répétition avant le PSG, une appris en pointe à la place de Lewandowski.
Non, mais de toute façon, Gnabry en pointe ou Choupo-Moting, on peut très bien le changer interchangeable au match aller comme au match retour. C'est-à-dire que ça dépend de beaucoup de choses, si tu estimes.
Bah, c'est pas le même joueur quand même. Excuse-moi.
Mais justement, c'est pas les mêmes profils et donc c'est pas les mêmes choix. On peut estimer que Gnabry évidemment est plus fort que Choupo-Moting, mais en position de véritable neuf, Choupo-Moting est peut-être plus fort que Gnabry. Donc c'est en fonction des choix stratégiques qu'il cherche à faire. On annonce, je te dis, demain Gnabry, donc si ça marche très bien, bah ça se trouve ce sera répété contre le PSG, mais c'est pas ce qu'il a fait en tout cas sauf une fois depuis le début de la saison, à chaque fois que Lewandowski était absent, c'est Choupo-Moting qui était choisi.
Ouais, après c'est pas les mêmes matchs non plus pour Laurent. Oui. Là c'est sûr que là le titre se joue, après il y a la Ligue des Champions et on sait très bien sur une double confrontation comme ça, t'as pas le droit à l'erreur, donc pense que si ça marche, il y a de grandes chances qu'on revoie Gnabry à la pointe
si
de l'attaque.
Choupo-Moting est convaincant avec le Bayern, je sais pas, depuis le début de la saison Choupo-Moting c'est bien ou
mais c'est pas que c'est bien parce qu'il est réduit à la portion congrue, oui. Évidemment, sauf qu'à chaque fois qu'il a été là, il a répondu présent quoi. Donc mais le problème, est-ce que ça compte le fait d'avoir deux titularisations en Ligue des Champions, d'avoir marqué un but, est-ce que ça compte d'être rentré une fois et d'avoir marqué un but? Moi je crois pas que c'est ça qui change, je pense que c'est plus un équilibre global. Lewandowski n'est pas là, ça fait mal au Bayern de Munich évidemment. D'ailleurs je sais hier ou avant-hier que Kicker faisait des calculs comme quoi si Lewandowski n'avait pas été là depuis le début de la saison, le Bayern ne serait que second du championnat et non pas premier. Donc on voit son importance. J'ouvre une parenthèse, pour le Norvégien Hollande, c'est encore pire pour Dortmund, il serait 9e.
Donc c'est, on va en parler d'ailleurs de Hollande.
Et donc en fait là je crois que le Hansi Flick il a l'information que Lewandowski n'est pas là, il faut trouver la meilleure équipe possible. Moi ce qui me dérange avec Gnabry encore une fois, c'est que c'est pas un véritable attaquant, c'est pas le gars qui peut jouer au point de penalty. Je connais pas trop son entente, enfin quand je dis je connais pas trop son entente avec Thomas Müller à cette position là évidemment, mais Choupo-Moting me donnait entre guillemets plus
les profils correspondants.
Le profil me rassurait un peu plus même s'il a pas le volume de jeu évidemment de Lewandowski.
Non mais là on est d'accord, et que si tu joues avec Gnabry en numéro 9, c'est sûr que l'animation autour va être différente parce que Gnabry va pas attendre les ballons. Alors je dis pas qu'il attend tout que les ballons, hein, Lewandowski fait plein de choses, mais comme un pur numéro 9 avec qui profite des offrandes des joueurs de côté souvent, des dédoublements des latéraux, Gnabry viendra certainement plus dézonné que le fait Lewandowski. Peut-être que Müller dans ces cas-là peut être un petit peu plus haut et à la réception de ses centres comme il le fait de temps en temps aussi. C'est l'animation en fait qui va évoluer, ouais.
Il y a aussi peut-être un calcul de la part de l'entraîneur allemand qui sait que véritablement le point fort, s'il prépare, il prépare les deux matchs là, incontestablement, il en laisse pas un de côté, mais il prépare ces deux matchs. Mais je pense que il a pas besoin de voir beaucoup de vidéos pour savoir que s'il y a bien un point fort au Paris Saint-Germain, c'est l'axe central et le gardien de but.
Ouais.
Et que si il n'a pas de véritable avant-centre, il va peut-être pas aller se mettre contre un mur avec de Marquinhos, Navas et Kimpembe, et qui va peut-être plutôt user de travailler sur les côtés, où là il y a moins de sécurité du côté de la défense parisienne. Il y a peut-être aussi un calcul, en tout cas si c'est pas une répétition avec les joueurs, c'est une répétition peut-être un petit peu tactique en vue de la confrontation, de la double confrontation.
Ce que tu dis est très important parce qu'on oublie un autre facteur, c'est qu'il y a un joueur qui revient à très très haut niveau en ce moment, c'est Leroy Sané. Et en fait, ça lui permet d'avoir sa place,
bien sûr.
En position Gnabry, en position d'attaquant. Et ça, je pense que c'est un facteur très important, même s'il fait pas tout parfaitement. Il a un profil de jeu distributeur beaucoup plus grand que celui de Kingsley Coman. En gros, il peut jouer ailier, il peut jouer numéro 10, il peut supplanter Thomas Müller, etc. Et en plus, en ce moment, quand il percute ou en 1 contre 1, il est pas mauvais du tout. Donc c'est aussi le forfait de Lewandowski donne une nouvelle chance dans ce 11 de départ à Leroy Sané, à partir du moment où...
C'est pas un petit joueur, hein, qui est pas mal du tout.
Non, c'est pas mal.
Ça serait un trio, donc Gnabry, Coman, Leroy Sané demain contre Leipzig et peut-être donc contre le PSG, on verra ça. Mais en tout cas, on va suivre évidemment sur RMC ce match entre Leipzig et le Bayern, bien sûr. Tu restes avec nous, Polo, parce que dans un instant, on va parler de Dortmund. Mais Fred, puisque tu es avec nous, on en parlait dans Roten Régal de la sortie de Kylian Mbappé, tu as suivi ça cette semaine, où il est un peu fatigué de toutes ces critiques. Zidane a été interrogé là-dessus aujourd'hui à la veille du match contre Eibar, c'est ça?
Oui, bien sûr. Bah oui, parce que en Espagne, tout ce qui concerne Mbappé et Hollande, on va en parler derrière. Hollande ou Hollande, enfin en Espagne on dit Hollande. Bah Zidane lui a dit, en fait, il faut qu'il s'habitue parce que plus vous êtes fort, plus t'es critiqué. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Puis Zidane, il savait ce que c'était qu'être critiqué, puisqu'il était vraiment très très fort. Donc voilà. Après, si vous, je peux me permettre une petite remarque. J'ai entendu les différentes sorties de Jean-Michel Larquet sur Mbappé. En France, les critiques, c'est du pipi de chat. Il sait pas ce que c'est que les critiques dans des journaux espagnols. Il sait pas ce que c'est. Qui demande à Benzema quand Mourinho l'appelait le chat ou que Marca disait il est mort, il est foutu, etc. Il va falloir qu'il durcisse un petit peu sa cuirasse.
Mais c'est différent, c'est ce que je disais, Fred, et pour avoir évolué, partagé le vestiaire avec beaucoup de joueurs qui ont connu ces grands clubs à l'étranger, l'écart qu'il y a entre être à la tête d'affiche d'un club français quand t'es international français et être à une tête d'affiche au Real Madrid ou à Barcelone ou ailleurs, ou même si la presse est en effet, et je te rejoins, tu es mieux placé que moi pour le dire, qu'elle est beaucoup plus critique que ici.
Par moment, elle va trop loin.
Oui, mais sauf que la différence, c'est la façon de parler. Du moins, quand tu es étranger, tu arrives, même si tu essayes de parler la langue le plus vite possible, t'as forcément au niveau des médias pas le même rapport en fait. Non. Tu vois, la presse, tu vas pas la lire comme en France tout le temps. Les télés, tu vas pas toujours regarder les télés espagnoles.
Oui, mais enfin tu le sais. Puis
quand t'es descendu en flamme, que ce soit des flammes en France ou des flammes.
Oui, mais c'est différent que là à Paris où t'as toute ta famille qui est à Paris, même quand t'as pas entendu que tout le monde te dit ah t'as vu ce qu'ils ont dit, et là t'as vu ce qu'ils ont dit, tu vois, là il y a quand même un écart.
Je suis d'accord avec toi, mais rapidement, on te le fait. Puis dans les clubs, il y a toujours des gens qui vont te rappeler. Hein, tu sais, les gens sont méchants, même dans les vestiaires. Moi, je me souviens quand même qu'on disait au bout de 6 mois de Zidane au Real, Zidane, en tant que joueur, qu'il était nul. Que c'était une grave erreur d'avoir fait venir Zidane au Real. Pendant 6 mois, on a dit ça. Jean-Michel, tu t'en souviens?
On a dit ça de Rai pendant un an au Paris Saint-Germain.
C'est vrai. Il y en a même qui ont dit que Kaka était nul.
Celui qui l'a dit, ça.
Franchement, faut pas connaître.
Il est contre-sort, c'est pas un nul, c'est un con.
Justement, puisque vous avez, puisque tu as la parole, on peut parler aussi d'Erling Haaland, donc, ou Hollande, si on est allemand comme Polo. L'agent Mino Raiola se balade en Espagne, donc, pour vendre son joueur. Bon, même s'il n'y a pas besoin de le vendre, on le voit.
Il fait la tournée des Grands Ducs.
Il va au Real, il va au Barça.
J'aime bien faire de la formation, mais si Jérôme me le permet, si François me le permet, je vais faire un peu d'opinion là aussi.
Vas-y.
C'est quand même indécent ce qui s'est passé. Quand on connaît l'histoire de la rivalité entre le Real et le Barça, tu ne peux pas le matin être à Barcelone en train de négocier, montrer la marchandise, parce que là, c'est montrer la marchandise. Et l'après-midi, être au Real Madrid.
Si tu peux le faire, Fred, si tu t'appelles Raiola.
Oui, mais il n'y a pas que Raiola, il y avait le papa du joueur. Et que Raiola ne pense qu'à l'argent, ça c'est son problème. Mais que le papa...
Il soit mêlé à ça.
Et alors qu'aujourd'hui, ils font la tournée en Angleterre aussi. En gros, c'est un produit de foire qu'on va offrir aux... C'est une vente aux enchères qu'on fait. Alors, on va pas jouer les ingénus ni les bisounours. On sait comment ça se passe dans le foot. Mais aussi clairement, aussi publiquement,
c'est vulgaire.
C'est même pas grossier, c'est vulgaire. Tu as raison, Jean-Michel. Et comment ça va se passer le jour? Imagine, il signe au Barça et il va embrasser l'écusson du Barça, alors qu'il a négocié avec le Real publiquement.
Enfin, mais Fred, que je sois d'accord sur le fait que le papa du joueur soit mêlé à ça, à la tournée de Raiola. Parce que Raiola, c'est sa personnalité, il est comme ça. C'est du business, il se cache pas. Le papa qui soit mêlé à ça, c'est un peu plus dérangeant. Par contre, le joueur, il faut le dédouaner de tout ça. Parce que là, tu me dis s'il signe demain à Barcelone et qu'il embrasse les cuissons. Sauf que là, aujourd'hui, lui, il a pas mis le maillot du Real, il a pas mis le maillot de Barcelone, il a pas mis le maillot de Chelsea.
Mais il le met dans une position déjà pour l'avenir compliquée. Parce que quel est le message qui est envoyé?
Mais je pense que lui,
c'est pas le projet sportif.
Oui, mais je pense que lui, la personnalité, et je parle sous le contrôle de Polo aussi, qui le voit en Allemagne, plus que nous. Mais la personnalité de Haaland aujourd'hui, elle est comme ça.
Mais
je veux dire, c'est un joueur qui est provocateur. Il ressemble un petit peu dans le profil. Alors, ouais. Rien à voir. Aujourd'hui, il n'a pas fait des punchlines comme Ibrahimovic. Mais ça ressemble un peu à Ibra dans la façon d'être sûr de lui, de sa force, le chambrage, le ceci. Alors, moi, je suis friand de ça. J'aime ça. J'aime qu'il montre ça, du caractère. Et lui, à mon avis, il n'en a rien à carrer de tout ça. Dire demain, quand il va mettre le maillot de tel ou tel club, eh ben, il sera à fond dans ce club-là.
Oui. Mais on va demander à Polo, justement, parce que Dortmund, il y a encore pas mal de choses à jouer. Il y a beaucoup d'objectifs et ils ont besoin de Haaland. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Il est très important.
Il y a beaucoup de cirque. Alors, j'ai pas envie de parler de cirque médiatique parce qu'évidemment, personne, c'est pas les médias qui ont demandé à Raiola de faire une tournée autour des Ducs en Espagne.
Mais la suite est manipulée.
Ce qui me surprend, c'est que le père soit là. Parce que nous, les infos qu'on a d'Allemagne sur l'environnement d'Haaland, c'est que Raiola n'est pas si proche que ça du joueur. C'est-à-dire que c'est l'environnement, la famille, des personnes qui sont d'origine norvégienne, qui sont très proches du néerlandais. Et Raiola, en fait, il se fait mousser son image avec le norvégien, mais c'est pas lui qui est décisionnaire. Donc ça me surprend un petit peu que le père soit parti avec Raiola, sauf à croire qu'il il veut justement contrôler Raiola. C'est ça qui me semble aussi peut-être important. D'ailleurs, vous avez cité quelque chose qui me semble très important, François, c'est qu'évidemment, aujourd'hui, on est très loin d'un transfert en Allemagne. Un, parce que la position de Borussia Dortmund, c'est qu'ils ne sont pas vendeurs. Je rappelle qu'à l'époque où Lucien Favre était coach, moi j'avais quelques indiscrétions du côté du Borussia Dortmund. Il y a un départ qui est acté, c'est celui de Jadon Sancho, l'anglais, et que le Norvégien, lui, n'est pas vendeur. Ils ne sont pas vendeurs du Norvégien, donc ça change beaucoup de choses. J'ai accueilli avec extrêmement de plaisir les déclarations de Pep Guardiola sur les finances européennes des clubs, etc. Parce que lorsqu'on voit la tronche du compte de résultat et du bilan du UFC Barcelone et qu'on me dit va aller là-bas, etc., je veux bien savoir où ils veulent trouver l'argent.
Et qu'on mette
aujourd'hui, et c'est un peu les débats qu'on a eu hier soir dans l'after, et qu'on mette systématiquement de côté les conséquences économiques de la pandémie, je trouve ça un petit peu limite aujourd'hui. En disant il va partir parce qu'il est trop fort pour Dortmund. Ça me semble important. Moi, je pense qu'il y a énormément de... Ensuite, il y a le système de jeu. Pour ce qu'on se dit, en fait, en Allemagne, c'est pour lui, par rapport à son profil, c'est plus un joueur de première ligue qu'un joueur espagnol, et un joueur pour la Liga espagnole. Et donc, c'est un petit peu différent. Maintenant, pour revenir à ce qu'a dit, à ce qu'a très bien dit Jérôme sur le fait qu'il est un peu nerveux, un peu, etc., il fait des punchlines, etc. Il a toujours été nerveux. Il s'est toujours énervé depuis qu'il est arrivé au Borussia Dortmund. Mais le problème, c'est que là, on arrive dans une période où les transferts, où il y a des possibles transferts. Et donc, on utilise son énervement pour dire il va être transféré. Mais quand il s'énervait il y a 3 mois, il y a 4 mois, on disait pas que c'est parce qu'il voulait être transféré. Ouais, ouais. Donc moi, je trouve ça extrêmement, extrêmement compliqué. Par contre, ce qui me semble évident, mais encore une fois, c'est très spéculatif, c'est que demain, il y a un match très, très important pour le Borussia Dortmund, qui est aujourd'hui à 4 points de Francfort et qui doit absolument finir dans les 4 premiers de la Bundesliga pour être en Ligue des Champions l'année prochaine. Et j'ai du mal à croire que le Norvégien, vu son niveau actuel, reste à Dortmund s'il n'est pas en Ligue des Champions l'année prochaine.
Bien sûr.
Oui, oui. Donc c'est ça, moi, qui aujourd'hui me perturbe un petit peu et que ça pourrait... Voilà.
Ok,
j'ai fini.
Polo. Merci Polo. Beaucoup.
Merci.
Juste Fred, il y a la finale de la Coupe d'Espagne en plus ce week-end.
Oui,
c'est ça.
Mais la Coupe d'Espagne de la saison dernière, 2020, entre l'Athletic Club de Bilbao et la Real Sociedad. Pour une raison très simple, c'est que ce sont deux clubs avec beaucoup beaucoup de public, et comme il y a un an on ne pouvait pas disputer la finale à cause avec public à cause de la pandémie,
ils ont préféré attendre.
Mais il fallait que ça, il y avait une limite, c'était un an en fait.
Il
fallait que ça joue. On pensait qu'il pourrait avoir du public, une petite jauge, même pas. Donc ça se joue à la Cartuja, le stade olympique de Séville. Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad, c'est aussi l'un des plus beaux et des plus cruels derbys d'Espagne.
Demain, 21h30, pour cette finale de Coupe d'Europe.
Je t'envoie un WhatsApp.
Envoie-lui les livres à la bonne adresse déjà.
Parce que là, c'est pas possible.
Tu as bien écrit en français, parce qu'en espagnol, il comprend rien.
Non,
ne dis pas ça. Il ne parle plus espagnol. Peut-être qu'il a parlé fut un temps, mais là, il ne parle plus espagnol.
On remercie Polo. À bientôt. Leipzig Bayern Munich demain. Salut, 18h30 à suivre sur RMC, évidemment. Merci beaucoup Fred.
Merci Fred.
Le Real qui joue demain face à Eibar, 16h15. Et il y aura un très beau Séville Atlético de Madrid également à 21h dimanche en Liga. Allez, tout de suite, c'est le quiz.
Allez.
Pierre et Hugo nous attendent pour jouer avec Jérôme et avec Captain.
À tout de suite.